chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne, à votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat suite aux questions, plusieurs questions qu'on a posées sur le Facebook de VOA Afrique, notamment, selon vous, le sport est-il un vecteur de paix et de développement dans le monde? Permet-il de rapprocher les peuples et les nations? Quelle politique adopter pour qu'il profite à tous les citoyens et soit rentable? Donc là, c'est plutôt la question du développement. Les grands événements sportifs permettent-ils une embellie économique sur le long terme? C'est le long terme qui nous intéresse en Afrique. Vous pouvez appeler en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, en direct, vous pouvez appeler au 001 202 205 26-33. Alors on peut peut-être commencer par rappeler justement un exemple vraiment symbolique, hein, les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud qui ont permis un rapprochement plus que symbolique même, on va dire, entre les deux Corées. En effet, les derniers Jeux Olympiques d'hiver qui se sont tenus à Pyeongchang, en Corée du Sud, donc le mois dernier, ont été l'occasion d'un rapprochement considérable entre le Sud et le Nord. Les athlètes des deux pays avaient défilé ensemble lors de la cérémonie d'ouverture et les deux pays avaient constitué même une équipe féminine commune de hockey sur glace. Et ce dégel doit d'ailleurs déboucher sur une rencontre le 25 avril entre les deux dirigeants nord-coréens et sud-coréens. Aussi, ce sommet doit être suivi par un face-à-face historique entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en mai, donc le mois suivant. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple plus marquant, on va dire, hein, de ces derniers temps, exemple mondial qui effectivement donne une importance particulière aux relations entre pays, on va dire pays belligérants, hein, pays plutôt frères ennemis, hein, dans le cas de la Corée. Et finalement, ça se réchauffe un peu les relations, et eh bien les angles s'arrondissent, on va dire, grâce au bienfait du sport. On peut parler là de bienfait du sport en politique. Nous avons Brahima Doumbia qui est en ligne au Mali. Brahima, bonsoir, comment allez-vous? J'entends très mal Brahima Doumbia. Je ne sais pas si on peut avoir une meilleure qualité de ligne. Est-ce que vous m'entendez bien, vous?
Effectivement, je vous entends.
Bon. Parfait, ça va beaucoup mieux, Brahima. Alors vous pensez vraiment que le sport est un facteur de paix, n'est-ce pas?
Effectivement.
On vous écoute.
Comme il a si bien dit, le sport quand même unit des peuples, unit des gens qui sont divisés. Imaginez que des peuples qui s'entretuent, qui ne se parlent pas, mais si dans ces deux communautés, il y a deux stars qui jouent à l'extérieur, ils peuvent décider d'organiser un tournoi et pourquoi pas, ce tournoi peut être un facteur d'union, de cohésion, et les barrières seront baissées en quelque sorte, c'est mon point de vue. Puisque les deux équipes vont s'affronter et c'est vrai, au cours du match, il peut y avoir des euphories, mais pour finir, je pense qu'il doit quand même l'entendre. Ça, quand même, c'est un facteur quand même de mon point de vue.
Vous avez des exemples, Brahima Doumbia? Vous venez juste de parler de deux stars, par exemple. J'imagine que vous parlez de stars du football, deux stars qui organiseraient un grand match. Et est-ce que vous avez des exemples à nous citer par rapport à ça ou est-ce que c'est une idée?
Bon, c'est une idée, mais aujourd'hui, on voit des anciens joueurs quand même qui essaient de mobiliser leurs anciens collègues aussi, leurs camarades avec qui ils ont joué pour organiser des tournois bon, ici au Mali ou même sur d'autres continents, pourquoi pas. N'est pas seulement un moyen pour aider financièrement des joueurs. Mais c'est aussi un moyen aussi de confort et d'union, pourquoi pas, de mon point de vue.
Donc en fait, ce sont des tournois qui permettent aussi de récolter de l'argent, c'est ça?
Effectivement, ce tournoi, c'est pas un tournoi que je dirais gratuit, puisque généralement on paye, même si c'est une modique somme, et ces sommes sont souvent reversées aux associations qui s'occupent peut-être même des enfants, ou abandonner quelque sorte. Je pense que c'est un facteur quand même qui apporte
Merci beaucoup, Brahima. On est désolé pour la mauvaise qualité de la ligne, mais dans l'ensemble, on vous a bien compris hein, cet aspect-là. L'aspect finalement des stars du football, effectivement, qui organisent non seulement des rencontres sportives, mais toute autre forme d'événements et qui permettent hein, donc de récolter de l'argent qui est ensuite versé pour des œuvres ou autres. Mais bon, là, c'est du travail bénévole, on va dire, de la part des stars du football. Ce n'est pas le travail de l'État, donc au niveau économique, d'un point de vue économique, au niveau d'un pays, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. On a un autre auditeur en ligne. C'est Serge Lino Luboya, qui est en Angola. Oui. Bonsoir Serge.
Et bonsoir la VOA.
Alors vous aussi, vous pensez que le sport est un vecteur de paix dans le monde, n'est-ce pas? On vous écoute.
Oui, le sport est un vecteur de paix dans le monde. Parce que ça unit, ça regroupe les peuples de diverses races et ethnies qui sont forts dans le monde. Et ça favorise aussi la paix. Mais ce que moi, je peux dire pour nos pays plutôt des Moyen-Orient, par exemple l'Israël qui se trouve en Asie, mais qui ne joue pas les compétitions asiatiques, mais qui préfère jouer pour le compte de l'Europe. Moi, je trouve ça très contre, parce que avec le sport, on peut favoriser à unir tous ces peuples qu'on va chercher à mettre fin à leur divergence contre d'autres pays du Moyen-Orient. Alors, les instances sportives doivent aussi songer sur ça, parce que quand nous cherchons la paix, il y a aussi un moyen avec le sport que nous pouvons mettre la paix. Si nous regardons dans les coupes du monde passé, il y avait par exemple les États-Unis qui avaient des problèmes avec l'Iran, mais ils se sont rencontrés dans un tournoi, dans une phase de finale de Coupe du Monde, mais ils ont joué ensemble, ils se sont salués et tout ça. Ça veut donner quand même, ça veut donner une bonne impression. Donc, alors, au lieu que les gens qui se trouvent dans d'autres continents puissent aller jouer jouer les champions de notre continent, ça, quelque part, ça fait aussi du mal avant.
Donc, vous pensez que dans ce cas-là, vous avez parlé notamment du cas d'Israël, il y a quelques petits problèmes qui font que, en fait, le sport est lié à la politique, c'est cela?
Oui, le sport est en dehors de la politique. Mais le sport peut aider la politique là où la politique n'arrive pas à unir les gens. Mais avec avec le sport, on peut unir les gens. Donc, il faut que les instances sportives voient encore ces côtés-là.
Et dans le cas, vous avez cité aussi le match USA-Iran. Est-ce que vous pensez que dans un tel cas, par rapport à un match comme cela, est-ce que vous pensez que ça a vraiment aidé ces deux pays à se rapprocher un tout petit peu sur le plan diplomatique ou c'est simplement symbolique hein?
Bon, donc la politique allait aussi profiter de cette date avec l'export, profiter pour enfin trouver à mettre point à l'ère divergence. Donc c'était un moyen, un coup de pouce avec l'export que la diplomatie pouvait profiter pour...
Saisir la balle, on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Saisir la balle. Serge, vous parlez aussi, notamment dans votre commentaire sur Facebook, des recettes. Vous dites que une grande compétition sportive génère forcément des recettes, mais vous dites comme il n'y a pas une bonne politique, il est difficile de savoir quels sont ses bénéfices. Vous parlez de quel pays en particulier, là? Vous avez un exemple?
Bon, nous pouvons citer, je peux citer par exemple l'Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde. C'est que non, ils ont beaucoup dépensé, mais ils ont aussi récolté quelques recettes et quelques bénéfices. Alors, mais les recettes là, les bénéfices qu'ils ont engendrés là, tout sont partis sur le peuple, la population a bénéficié. Parce que si nous regardons là, les télés, il y a d'autres milliers, les banlieues au niveau de l'Afrique du Sud qui laissent à désirer. Donc, on ne sait pas comment est-ce que l'État a géré. Bien que l'État nous trompe souvent, ici en Afrique, on nous trompe souvent que non, la politique est à part, les sports est à part, mais les politiques s'ingèrent dans les sports. Donc, l'État qui fait tout, qui dirige tout, qui commande tout, qui décide tout, même dans le milieu sportif, la population.
On peut peut-être dire même surtout dans le milieu sportif, finalement, non ? On peut, vous dites même dans le milieu sportif, mais on peut peut-être dire aussi, peut-être surtout dans certains cas, l'émission de la politique dans, dans le sport, non?
Oui, quand la politique doit aider les sports, parce que les sports, c'est un vecteur qui, de son côté, c'est le sport fait des recettes pour les payer. Mmh. Donc, et au lieu de s'accaparer de toutes les recettes que les sports fournissent, ils doivent mettre aussi, quand ils prennent, au lieu de prendre une partie, ou laisser aussi à faire développer d'autres sports, par exemple.
Mmh. Oui, nous, c'est vrai qu'on. C'est vrai qu'on mise beaucoup sur le football, hein, il me semble, dans la, la majorité des pays, mais peut-être qu'il y aurait d'autres sports qui mériteraient effectivement d'être, d'être plus développés. Serge, merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez rester avec nous pour poursuivre la discussion. Et Serge a en effet parlé notamment de l'Afrique du Sud. Alors, selon le HuffPost, tout le monde est d'accord pour dire que le sport contribue au développement économique en créant des emplois et en dynamisant l'activité commerciale. On le voit en général dans les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc. L'organisation d'un grand événement sportif est une opportunité formidable pour l'économie locale, dit le journal. Les milliers de personnes qui viennent y assister vont dépenser de l'argent dans la nourriture, l'hébergement, le transport et les activités touristiques annexes. Cependant, dit le journal, on remarque que les effets bénéfiques pour l'économie sont surtout réels sur le court terme, bien sûr. Si on prend comme exemple donc l'Afrique du Sud, dont vient de parler Serge, en 2010, l'effet positif de la Coupe du Monde fut temporaire en termes de création d'emplois et de baisse de la criminalité et inférieur aux estimations. Alors 309 000 touristes sont venus. Ils ont dépensé environ 400 millions, ce qui n'est pas négligeable, de dollars. Or, les estimations étaient de 480 000 et des dépenses trois fois plus importantes. Et la Coupe du Monde 2010 a permis un profit de plus de 2 milliards de dollars pour la FIFA, mais a coûté à l'Afrique du Sud 4,3 milliards de dollars, dont près d'un milliard de dollars pour les stades du Cap et de Durban. Donc vous voyez, c'est vrai que quand on compare les chiffres, on se demande effectivement si on retrouve ici un intérêt économique quelconque sur le long terme pour les pays en question. On a Tidiane Botegueba à Douala au Cameroun. Bonsoir Tidiane. Il est parti, alors on va essayer de le reprendre. On va prendre Théodore, Théodore. Archiduc Théodore N'Djamena.
Ouais, bon, ouais, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui connaissent Archiduc Théodore N'Djamena.
Bonsoir, on vous écoute. Alors vous, vous dites que le sport unit les peuples et crée la paix et aussi la division, n'est-ce pas?
Effectivement, le sport unit le peuple en ce sens que lors d'un jeu de sport, que ce soit le football par exemple, il y a des peuples divers qui s'unissent et partagent la joie. Il y a une symbiose qui s'installe. Mais généralement, parlons de sport qui finit toujours par des compétitions ayant droit à des titres, par exemple le football. Lorsque deux équipes se confrontent du côté des supporters, puisqu'il y a opposition, il y a des provocations qui peuvent naître. Par exemple, la Corée est en train de constater que dans divers stades, que ce soit en Afrique, en Italie ou en Espagne, les supporters se battent et ce n'est pas du tout l'image de la fin sans vouloir qu'il y ait affiché. Donc le sport unit le peuple, mais il faut le faire avec sagesse. Par exemple, s'il s'agit d'organiser une journée de football où il y a des femmes et des hommes qui vont jouer ensemble, on attache par exemple les mains des hommes pour que les femmes marquent un but. Ça, c'est vraiment l'image de la paix. Mais généralement, lors de compétitions où beaucoup de millions sont investis, il y a des guerres qui s'affichent, il y a des oppositions de supporters au niveau des stades, ce n'est pas du tout bien pour la paix.
Qu'est-ce que vous disiez sur... Vous disiez, on attache les mains des hommes pour que les femmes marquent un but. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas bien compris. Vous pouvez préciser?
Oui, c'est une histoire de football juste pour créer la paix. Par exemple, c'est un 8 mars, on fait une équipe où il y a opposition entre hommes et femmes. Mais maintenant, du côté des hommes, on les attache les mains pour permettre aux femmes de marquer un but. C'est-à-dire, c'est dans la droite ligne de la collaboration de la paix. C'est un acte de plus vers la paix. Et généralement, ce n'est pas pour avoir des trophées. Comme les champions, comme les ligas où la finalité, c'est les trophées. Certains jeunes se permettent de se battre au terrain.
C'est vrai ce que vous dites, hein. Hormis les violences dans les tribunes, sur le terrain aussi, on connaît pas mal d'exemples de violences. Et quand on a fait du sport de compétition, on sait que le sport d'équipe, le sport de compétition, c'est pas du tout amical. C'est vraiment la guerre en quelque sorte, hein. L'équipe adverse, c'est vraiment l'ennemi à éliminer, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça. C'est exactement parce que l'idée de la compétition, c'est avoir quelque chose à la fin. Il faudrait se battre. Et généralement, on accuse les arbitres pour des erreurs ou pas. Chaque équipe veut gagner. Et l'équipe perdante a du mal à supporter la défaite. Et généralement, ça finit par les violences au terrain, comme le cas en France tout à l'heure.
Merci beaucoup, Archiduc Théodore. On va prendre Tidiane Botegueba qui est à Douala, donc au Cameroun.
Tidiane. Oui, bonsoir, Madame Nathalie. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci beaucoup, Tidiane. Bonsoir, à vous la parole.
Oui, en tout cas, le sport et le football en particulier vraiment est un vecteur de paix. Parce que si je prends l'exemple de mon pays d'origine, la Guinée-Conakry, vraiment, ce pays actuellement est victime, je l'avais dit, de ces politiciens, parce que ce pays actuellement est ethnocentrisé, régionalisé. Mais si je prends l'exemple de Sili National, l'équipe nationale de la Guinée, si l'équipe joue, vraiment tout le monde est derrière, tout le peuple de Guinée est derrière. Tout le monde, vraiment, si le Sili gagne, tout le monde est fier. Et si le Sili perd aussi, tout le monde vraiment est mécontent. Donc c'est pourquoi je dis que le football vraiment c'est un vecteur de paix. Donc je me souviens encore ici au Cameroun en 2015-2016 si je garde mémoire, lorsque Boko Haram frappait le nord au Cameroun. Donc vraiment le pays était mouvementé, particulièrement à Douala ici. Donc lorsque vraiment les exactions de Boko Haram s'intensifient au nord, donc la sécurité est renforcée ici au Cameroun. Donc c'est là qu'on a vu que d'autres personnes disent que non, Boko Haram, ce sont les musulmans, c'est ceci, 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 et c'est là. C'est là que vraiment la star camerounaise Samuel Eto'o est sortie vraiment de l'ombre en débloquant plusieurs millions de francs CFA pour venir vraiment au secours de ces victimes et déplacées de Boko Haram. Non seulement c'est de l'extrême nord du Cameroun, mais aussi c'est du Nigeria et du Niger. C'est pourquoi je dis que le football, le sport, c'est un vecteur de paix qui vraiment n'a pas de frontières, Madame Nathalie.
Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Tidiane. Je voudrais revenir sur Kim Jong, dirigeant nord-coréen, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, hein, ou ne s'arrête pas aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Donc Kim Jong-un s'est engagé à envoyer des délégations aux JO de Tokyo 2020 et de Pékin 2022, indiqué fin mars le président du CIO Thomas Bach, après une rare rencontre avec lui à Pyongyang. Alors le comité olympique proposera un éventuel défilé conjoint des délégations des deux Corées lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été, ainsi que d'autres activités communes. Et on sait que la participation de Pyongyang aux JO de Tokyo était loin d'être acquise, hein, le Japon étant l'ex-colonisateur de la péninsule coréenne. Et de son côté, Tokyo reproche au régime nord-coréen d'avoir kidnappé dans les années 70-80 des jeunes japonais afin de les former comme espions. Alors voilà, c'est une histoire qui se continue et qui va donc se greffer sur d'autres pays. Et là, on a encore la preuve finalement que oui, le sport peut rapprocher les pays. On a Steve Boko en ligne en Côte d'Ivoire. Steve, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Steve? Voilà, avant de prendre, on a un problème avec Steve, on va essayer de le rappeler tout à l'heure. On a Moissy, c'est en ligne.
Allô, bonsoir.
Bonsoir, je vous entends très bien, c'est formidable. Allez-y, vous pouvez vous exprimer.
Ah, d'accord. Bon, je dirais que c'est quand même... le sport peut réunir les gens. Le sport peut réunir les gens si l'enjeu ne tue pas les jeux. Parce que en Afrique, celui-ci, on a insisté à des scènes sur le plan sportif qui ne valent pas la peine. Voilà. On a vu des gens qui se permettent de se faire du mal juste parce qu'une équipe a perdu, bien parce qu'une équipe a gagné. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, moi, je pense que c'est un jeu. Eh bien, ça peut réunir les gens. Ça peut réunir les gens. Moi, ce qui me dérange dedans, que souvent, tu vois un stade de combien de personnes qui ne prient pas, qui ne laissent pas leur sport pour aller prier. Moi, je suis religieux. Moi, je ne peux pas laisser ma prière pour le sport. Non, non, non. Donc, c'est la seule chose qui me dérange. Sinon, en dehors de ça, ben, c'est aussi c'est pour jouer. Même maintenant, on vient d'organiser un tournoi au nord du Mali pour essayer d'amener la concorde entre les gens là-bas. C'est une bonne chose.
Un grand merci.
Qu'ils fassent attention.
Oui. Un grand merci, moi, Cissé. Et il faudrait peut-être, effectivement, vous avez parlé de la prière, penser à organiser les matchs de football, les grands matchs de football en dehors de la prière. Comme ça, moi, Cissé pourra y participer. On peut rappeler la CAN 2019 qui devrait se tenir au Cameroun et ce sera la première qui regroupera 24 équipes participantes. Et pour la phase finale, 5 villes ont été sélectionnées. Bafoussam à l'ouest, Douala dans le littoral, Garoua dans le nord, Limbé au sud-ouest et la capitale Yaoundé. Alors c'est la grosse question que beaucoup se posent, de savoir quelle retombée économique pour la population et surtout il y a la question de la construction des stades, hein, des infrastructures qui se posent aussi. On a un autre auditeur en ligne.
Allô, madame la journaliste.
Steve, comment allez-vous?
Oui, je vais très bien.
On vous écoute.
Ah oui, pour ma part, je dirais tout simplement que le sport joue un travail mouse pour le développement d'une nation ou de nos nations. Oui, parce que grâce au sport, l'on essaie de se réunir, éviter la discrimination et même consolider le lien d'amitié. Donc moi, je ne vois de soubresauts que le sport sème au sein de nos populations. Donc, en un mot, je dirais tout simplement que le sport, nous devions encadrer toujours le sport. On devait même se focaliser sur la date ou l'heure de prière. Dès que si nous retirons trop d'heures de prière, c'est à quel moment nous allons essayer de jouer alors? Donc, pour cela, l'heure de prière ne gêne à rien. Le sport joue, fait pleinement son rôle et qu'il continue comme ça pour que nous allons maintenir nos liens d'amitié et même consolider la paix dans notre continent. Car le sport fait un travail très colossal.
Merci beaucoup Steve. Avant qu'on se quitte, je voudrais lire quelques commentaires, notamment celui d'Alphonse Mbouaki qui a écrit: lors de la séparation du nord et du sud de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo, la sélection ivoirienne était toujours constituée de joueurs du nord sous le giron des rebelles et le sud loyaliste. Didier Drogba fut l'apôtre de paix et de réunification des deux parties divisées. Il y a également, pour terminer, le commentaire de Hosanna qui dit: le sport peut bel et bien être un vecteur de paix et de développement parce que cela peut rassembler même les ennemis sur un terrain. Voilà, très chers auditeurs, très chères auditrices, très bonne soirée sur VOA Afrique. À très bientôt et bon week-end. Au revoir.